vivre sur cette terre selon l'idéal de Dieu avant la chute est contenu dans ce livre merveilleux qui est appelé la Bible. Et la raison pour laquelle nous honorons ce livre, nous le mettons au-dessus de nos opinions, nous le mettons en pratique dans notre vie, c'est parce que ce livre nous permet de vivre selon l'idéal que Dieu avait pour l'être humain quand il l'a placé sur cette terre. Alors, quand nous nous assemblons, eh bien, nous prenons le temps de l'ouvrir, nous prenons le temps de le consulter. Et ce que, vous savez, il y a un homme qui s'appelait, je ne sais pas s'il a changé de nom, il est au ciel, mais qui s'appelle Lester Sumrall. Et un jour, quelqu'un lui a dit qu'il voudrait bien être son ami. Il a dit, Lester, j'aimerais bien être ton ami. Et il a dit, écoute, volontiers, mais je te préviens, j'ai un avis sur tout. C'est exactement cela. Ami de Dieu, sache que Dieu a un avis sur tout, dans tous les domaines de notre vie. Ce qui veut dire que tous les domaines de notre vie sont abordés d'une manière ou d'une autre dans ce livre. Il n'y a pas un domaine où l'on puisse se dire oh, « je ne sais pas !» ou alors on reste dos au mur à cause du manque de sagesse, à cause d'un manque de direction. Jamais, mes amis, ça n'arrivera. Si nous nous tournons avec respect, pas simplement, on n'entend pas ce qui vient de ce livre comme on entend les nouvelles, c'est-à-dire peut-être pendant ce temps, on répond à un mail sur ordinateur ou peut-être, on se met du vernis à ongles ou que sais-je que vous faites devant votre télé. Mais on n'écoute pas la parole d'une oreille distraite. On écoute la parole en sachant que cette parole est venue du cœur de Dieu et que pour aujourd'hui, il a une parole qui correspond pas simplement à nos besoins d'aujourd'hui, mais à ce qui nous a manqué avant-hier et à ce dont nous aurons besoin demain. C'est extraordinaire, c'est un miracle. Quelquefois, les gens écoutent la parole de Dieu et disent « Oh, je sais ». Non, 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 non. Celui qui dit « je sais » me montre qu'il ne sait pas comme il devrait savoir. Vous savez, quelquefois, on entend des versets et puis notre intelligence dit « Ah, je sais !» C'est le moment de lui dire « Tais-toi !» Parce que la Bible dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Qu'est-ce que la parole qui sort de la bouche de Dieu? Ce n'est pas la parole qui est dans ce livre-là. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est celle que Dieu te donne maintenant, pour toi, à l'instant T. C'est maintenant cette parole. Dieu dit, tu en as besoin. Mais ce qui se passe, c'est que quelquefois, on la prend un peu à la légère parce qu'on dit, j'en ai pas besoin. Et Dieu dit, tu en as besoin. Et tout de suite, qu'est-ce que ça fait? Ça place un respect, un petit peu comme celui qu'il y a là, en ce moment-là. Chrétiens, apprenons à respecter la parole de Dieu. Et ça n'est pas mon message, vous vous rendez compte? C'est un truc, ça, hein? Ça n'est pas mon message. Alors, regardez avec moi dans Luc chapitre 7. Ce message, à vrai dire, je voulais le donner depuis longtemps. Un de plus. Depuis longtemps. Mais ce qui compte, ça n'est pas ce que j'ai à cœur de donner. Ce qui compte, ça n'est pas ce que je sais. Ce qui compte, c'est que cette parole que Dieu vous apporte soit vraiment celle qu'il veut pour maintenant. Alors, moi, je crois que ça va bien tomber. On va parler de l'hospitalité ce matin. Je vous avais dit, Dieu a un avis sur tout. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu a un avis sur tout. Et nous, les chrétiens, nous devrions être sensibilisés à ce sujet qu'est l'hospitalité. Combien de fois des gens ne disent pas « se sentir seul » ? Combien de fois des gens disent « ah, je ne sais pas que faire le dimanche matin ?» Et peut-être qu'il faut se dire, mais qu'est-ce que Dieu a pensé? Et ce sujet de l'hospitalité n'est pas si ennuyeux que l'on voudrait penser. Regardez avec moi dans Luc. Alors évidemment, la parole de Dieu, on peut étudier la doctrine, mais la parole de Dieu, elle doit être praticable dans tous les domaines de notre vie. Dans Luc chapitre 7, au verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Voilà. Certains, ils ont lu tellement vite le verset que... Mais un pharisien, il est allé vers Jésus. Il n'a pas attendu que Jésus l'invite. Je vais répéter ceci. Juste au cas où ma phrase n'était pas correcte en français. Quelquefois, je me mélange un peu les pinceaux. Hein. Un pharisien a lancé une invitation à Jésus. Il n'a pas attendu que Jésus l'invite. C'est lui qui a initié ce moment ensemble. Il est dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Tiens, Jésus ne l'a pas rencontré à la synagogue. Jésus ne l'a pas rencontré sous une tente d'évangélisation. Non, c'est une scène qui s'est passée à la maison, chez quelqu'un. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Moi, je crois que Jésus était un bon mangeur. Je n'ai pas dit acceptable. Mais on voit qu'il a passé beaucoup de temps à manger quand même. Hein. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes et elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, mais il saurait de qui ? Qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche ? Il saurait que c'est une pécheresse ?» Et Jésus prit la parole, remarquez qu'il est dit que cet homme se dit en lui-même. Et Jésus a... continuer avec ce pharisien la conversation que ce pharisien avait en lui-même. Vous croyez que Jésus sait ce que l'on pense ? Ah oui. Et Jésus prit la parole, lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, dit-il. Un créancier avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes, lequel l'aimera le plus ? Et Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. » Et vous savez que ça, c'est un minimum de l'hospitalité orientale. Hein, ce n'était pas les routes goudronnées, les belles autoroutes que nous avons aujourd'hui. C'était des chemins de terre. Il y avait non seulement les chariots qui passaient, mais devinez ce qui traînait les chariots. Des chevaux. Puis il y avait des troupeaux qui passaient par là. Et même à l'époque, c'est bizarre, hein, mais le progrès n'a pas réussi à résoudre cela. Mais même à l'époque, il y avait des déjections sur les routes. Donc, quand quelqu'un était accueilli, surtout s'il était invité, pas s'il demandait l'hospitalité, mais s'il était invité, pour être accueilli dans la maison de quelqu'un, eh bien, on sait qu'elle a la première des choses à faire était de faire en sorte qu'un des serviteurs aille et en signe d'accueil. Et tout le monde sait que quand on se lave les pieds, on est tout à fait rafraîchi. Hein, y a un truc là. Eh bien, c'était de laver les pieds de l'hôte. Mais apparemment, ce pharisien n'avait pas en vue le bien-être de celui qui l'invitait. Se peut-il qu'il avait une arrière-pensée qui était... Vous savez, il y a des gens parfois qui lancent des invitations à telle ou telle personne connue, histoire de dire « Ah, tu vois, lui, il est venu chez moi. » ou histoire de faire dire aux autres, regardez, regardez qui j'ai chez moi. Et puis il y a cette femme-là qui a su que Jésus était là. Et rappelons-nous, rien ne se passe dans la rue. Tout cela se passe à la maison de quelqu'un. Déjà, ce pharisien, il est en train d'avoir un sermon. Il est en train de vivre une démonstration d'objet. Les gens croient que pour entendre un sermon, il faut aller à l'église ou dans une réunion d'église, comme par exemple un groupe de maison, un groupe de prière, peut-être une soirée de concert et on entend la parole. Oui, mais mes amis, toute la vie chrétienne ne se passe pas que dans les murs de l'église. Et il y a des tas de choses que Dieu veut faire dans les maisons et des choses qu'il veut démontrer dans les maisons. Et ici notamment, tout de suite ce pharisien comprend une leçon sur le pardon. Et Jésus peut lui dire, tu vois, cette femme-là, eh bien, elle est venue m'apporter son offrande. Pourquoi ? Parce qu'elle a été beaucoup pardonnée. Et elle a pris conscience de l'abondance du pardon, que je n'étais pas envoyée du Père pour la juger, mais je suis venue pour qu'elle sache qu'elle est acceptée par le Père. Vous imaginez ? Jésus dit cela à un religieux, à quelqu'un qui aime la loi, à quelqu'un qui va par la lettre et non pas par l'esprit. Et à la maison, parce qu'il a ouvert sa maison. Bon, lui, il n'avait peut-être pas les bons motifs. Mais tu sais, quand tu reçois quelqu'un au nom du Seigneur, le Seigneur aura quelque chose à te dire, aura quelque chose à t'apprendre. Eh bien, devant le grand enthousiasme qu'il y a, je vais continuer. Et ensuite, il lui dit, verset 39, 40. « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentrée, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » C'est-à-dire qu'en fonction de la révélation du pardon que tu as sur tes propres péchés, ou bien tu aimes, ou bien tu n'aimes pas. Ou bien tu montres de l'affection aux autres, ou tu n'en montres pas. C'est-à-dire que le degré de marche de l'amour que nous avons vis-à-vis des autres a à voir avec la révélation que nous avons sur notre péché. Si nous réalisons que nous avons été beaucoup pardonnés, alors combien nous allons avoir de la patience avec les autres? Nous allons libérer le pardon vis-à-vis des autres. Mais si nous ne réalisons pas l'amplitude du pardon, la générosité du pardon, alors nous serons exigeants avec les autres. Hey, c'est pas à l'église que le pharisien, ce religieux qui passe son temps à étudier les Écritures, ça n'est pas à l'église, ça n'est même pas dans une école biblique, puisque et pourtant Dieu sait si je suis pour les écoles bibliques. Pour moi, l'église entière devrait aller dans une école biblique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un concentré. On a l'habitude de dire qu'en un an, on peut apprendre ce qu'un chrétien, en un an à l'école biblique, on peut apprendre ce qu'un chrétien apprend dans une église qui prêche la parole pendant 10 ans. C'est du concentré de tomates, cette histoire. Mais je vais vous dire, ici, la leçon n'a pas été donnée dans une école biblique. Elle n'a pas été donnée de derrière un pupitre. Elle a été donnée sous le toit de quelqu'un qui a ouvert sa maison. Si on se rappelle ce qui s'est passé dans 2 Rois au chapitre 4, vous savez, il y a des choses merveilleuses et pendant cette semaine, eh bien, vous pouvez trouver dans la parole de Dieu tout ce qui s'est fait dans les maisons, chez les uns, chez les autres. Dans 2 Rois au chapitre 4, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Verset 8. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'est-à-dire que à chaque fois que ce prophète, cet homme de Dieu, passait par la même région, eh bien, cette femme-là l'invitait à venir déjeuner à la maison. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Comment l'a-t-elle su ? Pas simplement par les miracles qu'elle le voyait faire, mais comment a-t-elle su qui était celui qu'elle accueillait à manger ? Comment a-t-elle su cela ? Vous savez, un serviteur de Dieu ne se juge pas aux miracles qu'il fait. Ça a à voir avec la grâce, avec l'équipement qu'il a pour le ministère. Un homme de Dieu, si on veut le connaître, eh bien, ou n'importe quel chrétien, si on veut les connaître, eh bien, il va falloir passer du temps avec cette personne. Et ici, cette femme a su que ce prédicateur n'était pas un charlatan, que ce prédicateur avait la puissance de Dieu parce qu'il avait le caractère de Dieu. Et elle dit à son mari, « Voici que je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élie étant venu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi ?» Cet homme de Dieu a pris conscience que cette femme généreuse, que son mari avait un besoin dans leur vie. Tu sais qu'il y a des besoins auxquels Dieu répondra dans ta vie, chez toi. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Chez toi. Vous savez, je suis absolument fan de l'église locale. Pour moi, on ne touche pas à l'église locale. J'aime l'église locale. C'est sacré, l'église locale. Le fonctionnement de l'église universelle me fascine. C'est la plus grande institution qui existe sur Terre. L'assemblée des chrétiens est quelque chose de remarquable. Mais, église du 21e siècle, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier, c'est que Dieu agit dans les maisons. Et que c'est bien d'avoir une vie publique, mais l'action de Dieu ne se limite pas à des réunions organisées. Et on sait ce qui s'est passé. Cette femme a dit, eh bien oui, je n'ai pas d'enfant. Et puisque c'était un prophète qui était là, le Seigneur a dit à ce prophète, dis-lui que d'ici l'année prochaine, ils auront un enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça, ce n'était pas un don de l'esprit à l'église ou à la synagogue ou à l'époque dans le tabernacle. C'est quelque chose qui s'est passé à la maison. Et puis ensuite, le prophète, un jour, il revenait. Et un jour, eh bien, l'enfant de cette femme meurt. Il se trouve que le prophète est là et on sait que par une action de Dieu, il ressuscite l'enfant et il le rend à la femme. C'est étonnant le nombre d'événements remarquables qui se sont passés à la maison. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans Luc chapitre 14 ? Luc chapitre 14, verset 1. Jésus est entré un jour de sabbat. Alors, on m'a demandé il y a deux jours, c'est sabbat ou shabbat ? Ben, ça dépend. Tu parles français, c'est sabbat. Tu parles hébreu, c'est shabbat. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, alors ça doit être... Imaginez-vous, on vous invite à prendre un repas et vous arrivez et il y a beaucoup d'invités à la maison. Et pendant que vous mangez, vous avez tous les yeux qui se tournent vers vous. Vous imaginez un petit peu? Vous ne croyez pas que Jésus savait dans quelle atmosphère il allait être invité? Mais bien sûr qu'il le savait. Et malgré cela, il n'a pas fui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'à la maison de ce pharisien, la parole de Dieu allait être donnée. Dieu allait pourvoir aux besoins de quelqu'un. Mais mes amis, très souvent, nous acceptons des invitations ou nous en refusons, nous en donnons ou nous n'en donnons pas parce que la vérité est que nous n'avons conscience que de nous-mêmes. Église du 21e siècle, cet égoïsme qui caractérise notre génération ne doit pas avoir cours dans l'Église. Nous devons être conscients des besoins des uns, conscients des besoins des autres. Et puis, il continue, les pharisiens l'observaient, voici un homme hydropique, c'est quelqu'un qui est entièrement, le corps entièrement gonflé d'eau, était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, alors là, il a lâché une bombe à table. Et je pense que si vous êtes à table en ce moment avec Jésus pendant que nous lisons ce passage, eh bien, alors qu'on entendait, tout le monde discutait, il y avait des bruits de couteaux, il y avait des bruits de fourchettes. Et puis, Jésus, de nulle part, dit, est-il permis de faire une guérison le jour du Shabbat ou pas? Et tout d'un coup, silence radio. Pourquoi? Parce qu'il commence à connaître le Seigneur. Et il se dit, si jamais je donne cette réponse, lui, il va me dire ça. Mais si jamais je donne l'autre réponse, lui, il va me répondre cela. Mais Jésus n'est pas impressionné. Et il dit, alors, et ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main. Où sommes-nous? Dans une synagogue? Où sommes-nous? À l'église? Sommes-nous dans une réunion d'évangélisation? Sommes-nous dans la rue? Sommes-nous? Où sommes-nous? La Bible dit, dans la maison d'un homme qui, si Jésus était là, c'est parce que quelque part il cherchait Dieu. Tu sais, cet homme-là qui était malade, eh bien, il devait lui aussi mettre sa confiance en Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus ferait des milliers de kilomètres pour répondre à une personne qui a la foi en Dieu. Il fait des milliers de kilomètres. Lors d'une réunion de 10 000 personnes, j'ai vu Jésus parler à une seule en s'arrêtant devant cette personne et en lui prêchant. Jésus fait des détours. Jésus répond aux besoins des autres. Jésus est conscient des autres. Et oui, Jésus est celui qui parle. Jésus s'arrête. Il accepte cette invitation. Parce qu'il sait qui est avec lui. La Bible nous dit que Dieu était avec Jésus. Ma question est, qui est avec toi? Ma question est, à qui Jésus veut-il répondre à un besoin? Pour qui Jésus veut-il pourvoir un besoin? Qui Jésus veut-il guérir? Et il ne répond pas à la question de il ne donne pas une réponse à la question qu'il vient de poser. Il n'attend pas que les religieux répondent. Qu'est-ce qu'il dit à cet homme? Il dit « avance ». La Bible nous dit que Jésus a guéri cet homme. Une fois encore, ça n'était pas dans une église, ça n'était pas dans une réunion, ça n'était pas dans une synagogue, ça n'était pas sous un chapiteau, c'était à la maison. Ma question est, est-ce que Jésus a la possibilité de guérir les gens chez toi? Il faut qu'on se pose cette question. A-t-il la possibilité de parler chez toi? Et puis on sait ensuite qu'au verset 7 à 11, il donne quelques instructions. Il dit quand tu es invité, eh bien ne choisis pas la première place. Attends que l'on te place. Et puis au verset 12 à 24, eh bien... On voit qu'il donne, il donne une parabole pour illustrer une vérité. Et ici, il dit aussi, verset 12, à celui qui l'avait invité. Donc, il continue à parler à son hôte. Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Et ensuite, il donne une parabole en disant qu'il y avait un homme riche qui avait donné, organisé un repas dans le royaume de Dieu. Et il dit, il invita beaucoup de gens. Mais quand je m'arrête sur la première partie, il faut comprendre ce que Jésus dit. Parce que Jésus dit, oui, d'accord, eh bien, on doit inviter les estropiés, les aveugles, les pauvres. Et très souvent, on ne comprend pas la richesse de ces versets. Oui, bien sûr, nous invitons ceux qui sont dans le manque. Mais tu sais que quelqu'un qui a 4 millions en banque, qui est quand même aisé, on pourrait dire, s'il ne connaît pas l'Évangile, celui-là est pauvre. Si quelqu'un va en enfer parce qu'il n'a jamais su que Dieu avait déjà pardonné les péchés, cette personne est pauvre. L'idée ici, c'est Jésus dit « Ouvre ta maison à ceux que tu connais être dans le besoin, quel qu'il soit. » C'est-à-dire, oui, c'est bien de passer du temps ensemble. Oui, c'est bien. Oh là 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 là, c'est magnifique. C'est magnifique de passer du temps ensemble, non? Qu'est-ce qu'on aime cela? Regardez, tout à l'heure, il va y avoir le café mission et on aime passer du temps ensemble. On s'invite les uns chez les autres et oui, c'est magnifique. On fait des barbecues. Et quand il y a un pique-nique de l'église, on était quoi, 80 personnes l'autre fois? Magnifique l'ambiance qu'il y a, c'est extraordinaire. Mais il y a une chose, qui a aimé le pique-nique de l'église? Ouais, c'était excellent. Maintenant, il y a une chose, c'est que très souvent, on n'invite pas chez soi. Pourquoi? Parce que c'est très facile d'inviter des gens avec qui on est à l'aise. C'est très facile d'inviter des gens qui savent ce que l'on sait. Parce que grosso modo, après, ça tourne autour des blagues. C'est très facile d'aller à un pique-nique quand on n'a pas grand-chose à organiser. Et la vérité, mes amis, c'est que recevoir à la maison, c'est difficile. C'est difficile. Bien sûr qu'on peut toujours faire des pâtes, mais à un moment, il faut un peu changer. C'est difficile, parce qu'il faut ranger la maison. Même si on ne vit pas dans le désordre, mais il y a toujours un truc qu'on a laissé là où il ne faut pas. C'est difficile parce qu'il faut que l'on pense au repas. Il faut qu'on organise le repas. Alors que s'il n'y avait eu que notre famille, on aurait fait quelque chose de plus simple. On aurait retiré deux, trois trucs du congélateur. On aurait retiré quelque chose du cellier. Oui, d'accord. Mais là, il faut, en plus de notre emploi du temps chargé, il faut aller jusque dans les magasins, prévoir les courses, et puis ensuite, il y a l'organisation du repas lui-même. Et puis, il y a le fait de dresser la table. Et je crois qu'il faut qu'on s'interroge, nous les chrétiens. Et il faut que l'on laisse Jésus faire ce qu'il veut, là où il veut. Et ce que l'on sait, c'est que Jésus parle dans les maisons. Jésus sauve dans les maisons. Vous vous rappelez de Corneille? Eh bien, rappelons-nous comment Corneille et sa famille ont été sauvés. Pierre a eu une vision et le Seigneur lui a dit à travers cette vision, eh bien, mon évangile, ma réconciliation, ça n'est pas que pour les Juifs, c'est pour les nations. Alors, il y a des gens qui vont venir te chercher, qui font partie des nations, ils vont t'inviter à aller chez eux et tu vas aller avec eux. Pierre a répondu à l'invitation. Il n'était pas à l'aise. Pierre n'était pas à l'aise parmi les non-juifs. Il faut le savoir, cela. C'était à la limite péché d'être avec des impurs. Malgré cela, l'apôtre Pierre, sachant, connaissant la parole de Dieu, connaissant la volonté de Dieu, a fait ce qu'il fallait. Et il a été, tu sais, peut-être que la femme de Corneille n'était pas vêtue comme elle aurait dû être vêtue. Peut-être qu'il y avait un petit peu trop de vin à table. Peut-être que là, dans la maison de Corneille, il a vu des idoles. C'était une abomination pour ce juif religieux. Mais tu sais quoi? Il a vu le cœur de gens qui avaient soif. C'est ça qu'il a vu. Et ma question est, est-ce que nous continuons à inviter? Et est-ce que quand nous sommes invités, nous répondons aux invitations? Ou est-ce que nous sommes trop pieux et trop saints pour aller manger chez des gens qui ne connaissent pas Jésus? Mes amis, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Jésus veut guérir dans les maisons. Jésus veut donner la vérité dans les maisons. Résultat, Pierre est allé chez Corneille. Et la Bible nous dit que Corneille avait invité sa famille. Il avait invité des amis. Et tous ont été sauvés. Zachée, qu'est-ce qui s'est passé avec Zachée? La même chose. Le Père avait envoyé Jésus vers Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, un juif, qui travaillait pour le gouvernement romain afin de pomper des taxes sur ses compatriotes juifs. Donc, je peux vous dire que les collecteurs d'impôts, c'était un petit peu comme les inspecteurs d'impôts aujourd'hui. C'était celui à côté duquel tu ne t'assieds pas. Tu sais, tu laisses un siège entre toi et lui. Non, pas ici. Mais Dieu a vu la soif de ce collecteur d'impôts. C'est étonnant que Dieu puisse voir qu'un proxénète ait faim et soif de lui. Dieu sait quelle est la prostituée qui répondra à l'évangile si tu l'invites à la maison. Dieu sait quel est ce voisin qui absolument, qui est une peste dans le quartier. Personne ne peut le supporter. Mais Dieu sait que quand tu l'inviteras à la maison, Dieu pourra le toucher. Il y a un homme qui s'appelle Max Lucado. Vous avez peut-être entendu vous avez peut-être lu des livres de lui, je crois qu'il en existe en français. Max Lucado a dit ceci: longtemps avant que l'Église ait des pupitres et des baptistères, elle avait des cuisines et des tables de salle à manger. Quelque chose de saint se passe autour d'un dîner à table, quelque chose qui ne se passera pas dans un sanctuaire. Dans un auditorium d'église, tu ne vois que la nuque de ceux qui sont devant toi. Autour d'une table, tu vois les expressions des visages. Dans un auditorium, dans une église, une personne parle. Autour de la table, chacun a une voix. Les cultes d'église ont un temps limité par une montre. Autour de la table, c'est le moment de parler. Mes amis, nous devons nous demander pourquoi nous avons un toit. Le toit que nous avons n'est pas supposé limiter Dieu. C'est-à-dire, la maison, l'appartement, les quatre murs que nous avons ne devraient jamais dire à Dieu, c'est ici que tu t'arrêtes, Seigneur, à ces quatre murs. Tu fais ce que tu veux à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est mon royaume. Oui, notre maison est un refuge. Mais dans ce refuge, Dieu doit pouvoir parler. Tu sais, on va être clair. Ouvrir sa maison, c'est ouvrir son cœur. Fermer sa maison, c'est fermer son cœur. On peut me dire, oui, mais tu sais, pasteur, je n'ai pas les meubles, je n'ai pas la décoration qu'il faut. Ça, écoutez, ne vous mentez pas à vous-même. Tu sais, moi, je me souviens vivre avec trois fois rien comme meuble. Une table avec quatre chaises qui n'étaient pas de la même famille autour. Mais que j'avais eu par la foi. Ah, c'était un départ. Il y a des gens qui disent, mais tu sais, pasteur, je n'ai pas l'argent pour préparer un repas. Fais un thé. Fais un thé. Fais une tisane. Demande à quelqu'un qui a un jardin, dis, est-ce que tu as un plant de verveine? Est-ce que je peux te demander quelques feuilles? Parce que je vais recevoir quelqu'un à la maison. Vous savez, l'hospitalité qui est décrite dans la parole de Dieu n'est pas simplement une hospitalité orientale, c'est l'hospitalité du royaume de Dieu. Nous devons ouvrir nos maisons, nous devons ouvrir nos cœurs. Ma question est, alors ça c'est très souvent, et vous savez ce qui est bien, c'est que quand je prêche, je ne sais pas forcément à qui je prêche, parce que je ne vis pas avec les gens, croyez-le ou pas, mais je ne vis pas avec les gens 24 heures sur 24. Dieu merci! Non mais je dis Dieu merci pour les gens qui me connaissent, parce qu'ils seraient désolés de vivre avec moi 24 heures sur 24. Hein. Mais en tout cas, ma question est, la dernière fois que tu... Quelle est la dernière fois où tu as invité quelqu'un à venir à la maison? La Bible dit, au ciel, il y aura une demi-heure de silence. On peut peut-être commencer tout de suite et dire, Seigneur, il n'y aura plus que 3 minutes une fois qu'on a terminé. Quelle est la dernière fois où tu as invité quelqu'un chez toi? Et la deuxième question, quelle est la dernière fois où toi tu as mangé chez quelqu'un? Peut-être que c'est un peu ça le truc. Peut-être que tu acceptes toutes les invitations, mais qui vient chez toi? Est-ce que tu as pensé inviter les personnes qui t'ont déjà invité? Qui vient chez toi? Qui invites-tu? Et souriez, parce que je ne saurais pas de qui je parle. Souriez, souriez, c'est OK. Mais vous savez, la parole de Dieu, elle considère tout. Elle, encore une fois, Dieu a un mot à dire sur tout. Oui, il faut faire des efforts pour inviter. Oui, il faut en faire. C'est plus difficile d'inviter. Mais tu sais, la récompense d'avoir échangé. Et je veux dire, surtout si vous êtes célibataire, c'est très facile d'être invité. Très facile parce qu'on a du temps libre et on nous invite et on nous invite et on nous invite. Ma question est, qui invites-tu? Pour qui prépares-tu un repas? Quelle est la dernière fois où tu as invité quelqu'un qui ne vient pas à l'église, c'est-à-dire quelqu'un qui a d'autres opinions que toi? On ne peut pas fréquenter que les gens qui sont d'accord avec nous, ce n'est pas possible ça. Tu dis, oui, mais tu sais, tu ne connais pas mon conjoint, tu ne connais pas mon mari. Lui, il n'aime pas inviter. Dis-moi, tu es chez toi, non? Tu es chez toi. Tu es chez toi. Il n'est pas sage d'inviter tout le temps. Il y a des, évidemment, il y a des, hein, bien sûr, il y a un équilibre à avoir. Mais on parle de quelque chose qui est important pour Dieu. On voit, je vais juste vous lire dans Romains chapitre 16, verset 23. Paul dit, il donne la liste des salutations. Il dit, Gaïos, mon hôte, et celui de toute l'Église vous salue. C'est-à-dire que quand Paul écrivait cette épître-là, il donnait toutes ses salutations et la Bible nous dit qu'il n'était pas logé à l'hôtel. On connaît le nom de la personne qui a accueilli Paul, qui a logé Paul. Et puis, ce n'est pas tout, c'est qu'on se rappelle, regardez un petit peu dans Actes chapitre 16. Alors, l'été, c'est souvent beaucoup plus d'invitations qui sont lancées parce que les jours sont plus longs. On peut profiter des jardins, profiter des piscines, profiter du grand air et c'est tellement plus agréable, tellement plus agréable. Et vraiment, encore une fois, eh bien, soyons l'Église qui permet à Jésus de s'exprimer chez nous. Ne gardons pas. Tu sais, si tu as un toit, eh bien, tu es béni. Parce que sur cette planète, il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas. Que tu loues ou que tu sois propriétaire, ça n'a aucune importance. Tu as un toit, alors tu es riche. Tu as un toit, eh bien, la bénédiction de Dieu s'est manifestée en ta faveur. Peut-être que tu n'es pas content de tout ce qu'il y a, c'est peut-être pas assez grand, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Mais la vérité est que tu as un toit. Ma question est, est-ce que le Seigneur peut parler à quelqu'un d'autre qu'à ta famille chez toi? Regardez ce qui se passe dans Actes, chapitre 28, verset 11. Après un séjour de 3 mois, donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Je ne sais pas si j'en vis. Attendez. Non, c'est pas le verset 11. Verset 7. L'apôtre Paul se trouve sur l'île de Malte. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul, s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Où est-ce que cet homme a été guéri? Chez lui. C'est chez lui. Personne ne l'a amené là où il y avait des réunions. Personne ne l'a amené à l'église. Personne ne l'a amené dans une synagogue. Chez lui, cet homme a été guéri. Puis ce n'est pas tout. C'est que parce qu'il a accueilli ce flot de guérison, là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Maintenant, regarde avec moi dans Hébreux, au chapitre 13. Vous savez, exercer l'hospitalité est vraiment important. Il y a des choses que Dieu ne te dira que chez toi. Tu dis, il ne peut pas me les dire à l'église ? J'ai un pasteur qui prêche bien. Voilà. Bon, c'est pas grave. Non. Et on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Bien. Mais malgré cela, dans la pensée de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te dira que chez toi. Et pas forcément quand tu lis ta Bible. Pas forcément quand c'est toi qui prie, pas forcément dans ta relation personnelle avec Dieu, mais il y a des choses que Dieu te dira chez toi par la bouche de quelqu'un qui n'habite pas chez toi. Regarde avec moi dans Hébreux chapitre 13. Regardez ce qu'il est dit, verset 1, il est dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et alors, moi j'ai toujours entendu cette phrase, et pour vous dire la vérité, cette phrase m'a toujours un peu intriguée. Parce que je dis, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette histoire-là. Parce que si je prends vraiment ce que je lis, la Bible nous dit qu'il y a des anges que l'on peut recevoir chez soi. En général, on connaît les gens que l'on invite. Donc, je sais si Marc est un ange ou pas. Non, je... on connaît les gens. Mais, un jour, pendant que je priais, que je parlais à Dieu, quand je lisais ce passage, je dis, Seigneur, il va falloir que j'ai une question en moi. Et même si, oui, Abraham a reçu des anges qui avaient une forme humaine, Mais personnellement, je n'ai jamais entendu de témoignage de chrétiens qui ont reçu des anges chez eux. Et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, il y en a peut-être eu, mais c'est quand même pas monnaie courante comme les guérisons. C'est pas monnaie courante comme la multiplication. Combien de témoignages n'avons-nous pas entendu sur la nourriture qui est multipliée? Vous avez entendu? Sur des provisions surnaturelles, des guérisons, des tout ce que l'on veut. Bon, bref, même des manifestations d'anges. Mais des anges que l'on aurait accueillis, que l'on aurait nourris, franchement, Seigneur, moi, j'en connais pas dans ma génération, ni dans celle dont je peux lire les livres, je n'en connais pas. Et le Seigneur m'a dit, c'est très simple, que veut dire le mot ange en grec? Agelos ou agelos, je ne sais pas comment ça se prononce, A-G-E-L-O-S, qui est le mot ange, mais le même mot ange peut aussi être traduit par envoyé, messager. Ah! Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Nous allons reprendre ce verset. Il est dit, persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des messagers sans le savoir. Tu sais, quelquefois, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient pour une conférence et qui cherche un logement. Peut-être que cette personne n'a pas les moyens de s'offrir un hôtel ou peut-être que cette personne ne veut pas être à l'hôtel et préfère la communion fraternelle. Ou alors peut-être que ça peut être quelqu'un qui dit « Hey, et si on mangeait ensemble ?» Ça vous est déjà arrivé? Vous avez cette pensée « Et si on mangeait ensemble ?» Ou alors vous dites « Ah, et si j'invitais telle personne, j'ai envie de manger avec cette personne ?» Et ce que l'on ne sait pas, c'est que le Seigneur va utiliser cette personne-là pour nous donner une parole de sa part. Alors mes amis, les paroles qu'il y a à table, ça n'est pas « Ainsi dit l'Éternel !»« Je te vois au bout de la table !» Enfin, chez moi, ça ne sait pas en tout cas. On va être clair, ça ne sait pas chez moi. Bon. Mais qui a déjà été édifié en prenant un café avec quelqu'un? Non. On va aller, je veux voir des mains là. Je veux voir des coupables. Qui a déjà été encouragé en mangeant avec quelqu'un? Qui a déjà reçu une direction, une idée de Dieu autour d'une table? Il y a des choses que Dieu ne te dira qu'autour d'une table, par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, dans une maison. Alors, ma question est, que se passe-t-il de ceux qui n'invitent jamais? Moi, je crois sérieusement, je vais vous donner ma pensée, et comme d'hab, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il y a des personnes qui restent dans des situations parce qu'ils n'ont jamais invité chez eux. Je ne parle pas que du pasteur. Attendez, je ne suis pas en train de prêcher pour ma chapelle, si vous permettez l'expression. Hein? C'est dans le sens général, c'est le principe. Je crois qu'il y a des personnes qui n'ont pas de direction ou qui manquent de sagesse ou qui sont coincées, dos au mur, qui ne savent pas que faire. Parce que ces personnes n'ont jamais ouvert leur maison. Parce que ces personnes, en n'ouvrant pas leur maison, n'ont jamais ouvert leur cœur. Mais ces mêmes personnes viennent à l'église et à chaque fois qu'il y a un appel, c'est « Pasteur, prie pour moi ». Oui, mais il y a des choses qui ne seront dites que chez toi ou que lors d'un moment de partage autour d'une table. Le moment de partage est tellement important que la Bible nous dit, relisez, Jésus a beaucoup mangé. Et puis, lisez le contexte, lisez ce qui s'est passé autour de la table. Lisez ce qui s'est passé sous le toit de l'hôte. Et puis, Il y a cette parabole, ou plutôt cette, le Seigneur s'est servi d'une parabole pour dire qu'à vrai dire, le Père voulait lancer une invitation à un grand nombre, parce que la Bible nous dit qu'un jour, le Seigneur Dieu va lancer une invitation à un banquet. Vous vous rappelez le repas des noces ? Vous croyez que tout le monde va être guindé ? Vous croyez que ça va être ce genre de repas où tout le monde est habillé en smoking et longue robe de soirée et personne n'ose dire « Hmm, il n'y a rien, on est tous devant et on a 5-6 couteaux, 5-6 fourchettes, 3 petites cuillères, 4 verres et on entend juste une musique d'ambiance. Et dès que le repas est servi, je vous en prie, après vous, pardon. Vous croyez que ça va être ça l'ambiance ? Alors je dis pas que ça va être non. Avec des rots et tout, je ne dis pas que ça va être ça. Je ne dis pas que ça va être ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il va y avoir de l'ambiance et nous allons entendre dans la maison du Père de belles paroles. Combien de cœurs n'ont pas été guéris à table ? À table ? À table ? Combien de repas ne se sont pas terminés par une imposition des mains sur un bébé ? C'est ce qui s'est passé la dernière fois quand j'étais en Kabylie. Il y a cette famille extrêmement modeste. J'avais des scrupules à accepter cette invitation. Parce que je savais que ce qui était sur la table, eh bien, ils avaient fait les efforts. Il n'y avait même pas de lumière. Alors, vous êtes dans une salle, les murs sont en briques. La construction est encore récente, c'est un ajout à une maison ancienne. Et il y a des fenêtres qui sont... Il y a des gros rideaux qui bloquent la lumière. Et il y a juste la seule lumière qui rentre dans cette petite pièce, c'est parce que la porte est entrouverte. Et il n'y a pas d'électricité dans la maison. Et dans la pièce où on mange, eh bien, il y a des chaises, il n'y a aucune qui est de la même couleur, et c'est modeste. Et on était à plusieurs, on a discuté, et puis à un moment, le père de famille a dit, « Hé, j'ai mon bébé qui est malade. » Peut-être qu'il n'aurait pas pu le dire à un autre moment. Mes amis, nous devons ouvrir nos maisons. Nous devons ouvrir nos cœurs. Nous devons accepter les invitations. Et même de qui que ce soit qu'elles viennent. Nous ne devrions pas avoir peur du monde. Nous ne devrions pas se sentir mal à l'aise. Tu sais, quelquefois, les gens, oui, mais les gens, ils ne pensent pas pareil. Mais nous-mêmes, on ne pense pas comme Dieu, quelquefois. Alors, Et pourtant, il est tous les jours à table avec nous. Moi, j'ai le sentiment que cet été, on va tous faire un effort. Si on n'a pas invité, on va inviter. S'il y a des gens qui nous ont invités, je ne sais pas combien de fois, on n'a pas retourné l'invitation, on va le faire. Et si jamais le Seigneur nous a mis à cœur d'inviter un voisin, d'inviter une voisine, on ne l'a pas encore fait, eh bien, on va le faire. Si nous ne sommes pas assez à l'aise pour un repas, eh bien, tu sais quoi, en France, c'est OK de prendre un apéro. C'est OK de prendre un thé et une pâtisserie. C'est OK de prendre juste un café. C'est OK. Mais mes amis, Jésus veut guérir dans les maisons. Il veut guérir les gens physiquement. Il veut guérir les gens dans leur âme. Il veut guérir les bébés. Il veut encourager les gens. Il veut leur communiquer la sagesse. Il y a des choses, je le répète, il ne le fera pas dans une église. Waouh! Max Lucado, toujours le même, a dit « Ça n'est pas un accident si le mot « hospitalité » et « hôpital » viennent du même mot latin. Tous les deux conduisent au même résultat, à la guérison. Quand on ouvre sa porte à quelqu'un, on lui envoie le message « Tu es important pour moi et tu es important pour Dieu. » Il y a pendant de nombreuses années, le docteur Schaeffer et sa femme Edith ont dirigé une maison spécialement réservée à l'hospitalité et à l'étude, et c'était en Suisse. Et cette maison s'appelait L'Abri. Ils ouvraient leur cœur et leur maison, ils ont ouvert leur cœur et leur maison à des centaines de personnes qui cherchaient des réponses bibliques aux défis de la vie. Et dans son livre « Qu'est-ce qu'une famille ?», Edith Schaeffer offre ce conseil. Elle dit « Chaque maison chrétienne est là dans le but d'avoir… » Non, dans la raison d'être de la porte de chaque maison chrétienne est d'être une porte à double battant. Qu'est-ce que tu fais une porte à double battant ? Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Encore une fois, bien sûr, on comprend qu'il y a un équilibre. Mais néanmoins, c'est là ce qui doit se passer dans une maison chrétienne. Donc, voilà, ça change un petit peu de... J'aurais pu vous prêcher sur... Alors, à vrai dire, je n'avais pas l'intention de vous prêcher ce message. J'avais préparé autre chose. Et puis, pendant que je préparais autre chose, celui-là m'est revenu à cœur. Et puis en le préparant, il y a un troisième sujet qui m'est venu et j'ai dit non, celui-là, je vais le prêcher sous forme de série, donc je vais attendre. Et à la fin, j'étais là, j'ai dit Seigneur, j'en peux plus. Dans mon bureau, j'ai dit Seigneur, il va falloir que tu m'aides parce que là, il y a trop, ça déborde, je vais dans toutes les directions là. Et le Seigneur a appuyé sur ce message. Soyons une église aux portes ouvertes. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions. Ah, oui, il y a une chose que je voulais dire. Merci Seigneur. Peut-être que ce n'est pas pour quelqu'un ici, peut-être pour... Vous savez, les gens vont sur Internet et des gens de pays de la francophonie écoutent. Donc, question, es-tu invité ? Est-ce que tu es invité ? Bon, si tu es nouveau dans une ville, bon, il faut le temps. Mais ma question est, es-tu invité ? Reçois-tu des invitations ? Quelqu'un qui dit, oh, j'en peux plus, pasteur, arrête de prêcher, arrête. Je sens qu'il y a quelqu'un qui souffre, là. Es-tu invité ? Parce que si tu n'es pas invité... Alors, évidemment, peut-être avec ton oncle, ta tante, ton frère, ta sœur, mais moi, ça, ce n'est pas des invitations, c'est... Hein? Non, dans une sphère plus large, es-tu invité ? Pourquoi cette question est-elle importante ? Parce que si tu n'es pas invité, si personne ne t'invite, c'est parce que peut-être que tu n'invites personne chez toi. Peut-être que tu n'invites personne chez toi. Et les invitations sont un moyen de rompre la monotonie et de rompre la solitude.